C'est Véronique Omari Safi, conseillère technique à Congo Dorpen, déjà depuis quelques mois. En face de moi, j'ai, si vous pouvez vous présenter.
Aloïs Kouma, je suis coordonnateur pays de Congo Dorpen, mais en même temps, je suis responsable de quelques thématiques, par exemple l'entrepreneuriat agricole.
Ok, merci beaucoup, monsieur Aloïs. Vous avez dit que vous êtes représentant pays, okay. Aussi coordonnateur Congo Dorpen, mais qu'est-ce que Congo Dorpen fait exactement?
Ben, la situation qu'on a ici, Congo Dorpen est une ONG belge active en RDC depuis plus de 50 ans. Mm-hmm. Sa logique, c'est le revenu paysan amélioré qui lui permet de réaliser les services sociaux de base, qui sont la santé et l'éducation. Vous voyez ce qui se passe dans les villages, c'est que l'entreprise du paysan, c'est son champ, c'est son petit élevage, c'est la pêche, c'est tout ce qu'il fait, ça lui rapporte de l'argent. Mais dès qu'il a cet argent, il y a des dangers qui lui approchent. Le premier danger, c'est la santé. Quand il tombe malade ou quelqu'un de sa famille tombe malade, tout ce qu'il a consenti pour toute l'année est parti en santé. C'est ainsi que nous, nous appuyons les paysans pour améliorer son revenu. Mais ce revenu, nous devons avoir un moyen équitable pour qu'il puisse accomplir ses besoins sociaux de base en santé. Par exemple, le mettre dans une mutuelle de santé. C'est ainsi que nous, on appuie la mutuelle de santé et l'éducation, on est plus dans l'alphabétisation. Voilà Congo Dorpen.
Ok. Merci beaucoup. Déjà, en vous suivant, vous avez parlé de la santé, de l'agriculture et aussi de l'éducation. Ce sont juste les trois axes ou il y a encore d'autres axes d'intervention pour Congo Dorpen?
Bon, ce triangle-là, c'est un triangle important. Le revenu, qui est le produit de l'entrepreneuriat, qui appuie la santé et l'éducation. Mais tout cela s'est fait avec l'inclusivité et dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que ce soit dans les revenus paysans, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, c'est avec la pleine participation des femmes et des jeunes et aussi dans le respect des normes de l'environnement. Par exemple, si c'est l'agriculture, ça sera une agriculture, ça sera des pratiques agroécologiques. Mais avec l'intégration des femmes, parce que l'agriculture, elle est familiale. Voilà, chez nous, l'agriculture, elle est familiale. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, vous comprenez par là qu'on a le revenu qui prend en compte l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat, durable et inclusif, mais qui appuie la santé côté offre et côté demande. Offre, c'est tout ce que nous faisons dans les infrastructures, dans les équipements, dans l'appui aux médicaments et la demande de la mutuelle de santé. C'est l'accès aux soins. Et côté l'éducation, nous sommes plus côté l'alphabétisation. Mais tout cela, nous le faisons d'une façon inclusive et durable.
Ok. Vous venez de parler de la durabilité. Mais on aimerait aussi savoir c'est quoi le changement exact que Congo Dorpen a apporté jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau des paysans qui a changé avec l'apport de Congo Dorpen?
Je ne peux pas être jugé parti, mais ce qui est vrai, quelques indicateurs nous montrent que l'amélioration, elle n'est pas à 100%, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, mettre les paysans, les producteurs sur un chemin, c'est aussi quelque chose. Ce qui a changé, par exemple, je ne dis pas que les paysans, il faut comprendre que les paysans, lui, il a une connaissance terrible. Et il y a quelques points seulement qui les compliquent. Par exemple, dans la production, il est fait. Mais c'est seulement, par exemple, dans la vente de ses produits. Il produit son sac de maïs, il produit du café là-bas. Ce qu'il a consenti pour faire toute l'année, un bon monsieur comme ça atterrit dans les milliers avec les sacs en main, il dit « j'achète les maïs, j'achète les cafés », lui-même fixe les prix. Et comme le paysan est dans les besoins, son enfant est malade ou il doit payer les frais scolaires pour les enfants, il est obligé de vendre ces produits-là au prix fixé par l'acheteur pour réaliser les besoins de base qu'il a rencontrés dans sa famille. C'est ainsi que nous, dans l'accompagnement, À travers les micro-projets communautaires sur l'entrepreneuriat, nous accompagnons les paysans jusqu'à la commercialisation. Par exemple, s'ils mettent leurs produits ensemble, ils ont mis autant de sacs de maïs ou autant de sacs d'arachide ou autant de sacs de café quelque part, et quelqu'un débarque dans le village, il écrit « j'achète le café, un sac à 10 dollars par exemple, à 10 000 francs ». S'il demande à un paysan, il dira « oui, nous avons du café, tu as besoin de combien de sacs ?»« Non, j'ai besoin de 1 000 sacs. » »« Non, va dans notre dépôt là-bas, nous avons plus de 2 000 sacs, tu vas avoir tout ton café le même jour. » L'acheteur, en écoutant qu'il ne va pas traîner dans le village, il aura le café le même jour, il va se presser d'y aller. Mais il arrive là-bas, lui l'acheteur, il avait fixé le prix à 10 000, il arrive là-bas, on lui dit « écoutez, nous paysans, nous avons mis notre produit ensemble, notre café coûte 15 000. » Il sera obligé de négocier avec le producteur parce que le producteur n'a pas fixé ses prix par imagination. Il a fait les calculs de production et il dit que si je vends à 15 000, j'aurai bénéfice. S'ils sont en groupe, ils gagnent. S'ils vont à l'ordre dispersé, ça profite à l'acheteur. Voilà une stratégie pour dire que chez les paysans, ils sont organisés pour la vente. Je n'ai cité qu'un exemple pour montrer qu'ils peuvent... améliorer leurs revenus seulement par la vente groupée.
Okay.
Ça, c'est ce qui est très visible. Mais de l'autre côté, l'argent des paysans, le revenu dont nous parlons, ce n'est pas l'argent qu'on compte, on met dans les sacs.
Okay.
Ce n'est pas l'argent qu'on met dans les placards.
D'ailleurs, ou en banque.
Oui, il n'y a pas les banques dans le village. Okay. Tu vois? Donc, le problème est que son revenu, pour savoir qu'il a amélioré son revenu, il faut voir comment il est en train de réaliser les besoins sociaux de base qui l'entourent. Il a le problème de santé. Mais qu'est-ce qui est visible, cette question-là? Il s'affilie à la mutuelle de santé que nous avons accompagnée, que nous avons mis en place. Et s'il est malade, au lieu de payer les 5 000 ou les 10 000 francs qu'on lui demande pour son enfant, la mutuelle de santé prend les 80 ou les 70 % et lui ne paye qu'un petit ticket modérateur de 1 000 francs ou de 500 francs. Et ça fonctionne. Donc, le revenu des paysans amélioré, il ne dépense pas trop aussi dans la santé parce qu'il est membre d'une mutuelle de santé qui est une mutuelle qui rembourse les soins d'une façon équitable. Et c'est un mécanisme de solidarité qui fonctionne très bien. L'analyse contextuelle commune a prouvé que dans les villages, il y a moins de gens qui sont allés à l'école, qui ont eu la chance d'aller à l'école. Ça change maintenant avec les enfants, cette génération, mais avant ici, la génération avant là, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Et surtout les femmes.
Ok.
Alors nous, on travaille sur l'alphabétisation conscientisante et fonctionnelle au même moment.
Conscientisante, qui veut dire?
Conscientisante, je commence par fonctionnelle.
Ok, allons-y.
Savoir lire, écrire et calculer.
Ok.
Mais pourquoi lire, pourquoi écrire, pourquoi calculer? C'est pour s'insérer dans le développement de son milieu. Pour que la femme soit capable de se représenter dans un mouvement associatif. Et pourquoi pas revendiquer être président d'une association. C'est ainsi qu'on a un comité local de développement dans le village de Kondonga où la femme est présidente. Cette alphabétisation insère les femmes dans la communauté et la femme devient actrice de développement. C'est ça la conscientisation.
Okay.
Voilà. Alors vous voyez, dans l'alphabétisation conscientisant, c'est fonctionnel, ça marche. Dans la mutuelle de santé, ça marche. Et dans la stratégie des micro-projets d'appui à l'entrepreneuriat et l'organisation jusqu'à la vente complète, ça marche. Et nous pensons que si on a assez de revenus, on continue sur cette direction. Petit à petit, on va arriver à améliorer ces conditions de vie-là.
Ok. Merci beaucoup pour ces explications. J'entends un mot qui est venu dans vos interventions, dans votre intervention tout à l'heure, c'est comité de développement. C'est quoi exactement et là, ça a quel rôle?
Ah bon. Maintenant, il y a, vous avez vu les trois piliers là.
Oui, oui.
L'amélioration des revenus, des revenus, il y a la santé, il y a l'éducation.
Ok.
Nous, on s'est dit, même dans les revenus, pour améliorer les revenus des producteurs. Ils sont très nombreux. Il faut les cibler. Il faut cibler la filière qui est jugée rentable. Par exemple, les cafés. Maintenant,
On va parler à l'ordre dispersé. Ils sont très nombreux. Il faut les mettre dans un groupement, dans une association, dans une petite coopérative simplifiée. Et ces producteurs-là, on les organise en une petite coopérative. Ceux qui travaillent en santé, le problème de santé, c'est un problème communautaire. Par exemple, il faut construire un centre de santé. Il faut capter une source d'eau. Ça concerne tous les villages. Là, il faut mettre un comité qui permet aux gens de discuter en matière de santé et de rendre l'information aux autres. On a le comité de développement de santé pour chaque aire de santé que nous nous organisons. Au niveau de l'alphabétisation et de l'éducation, on a pour les parents le comité des parents des élèves. Pour les centres d'alphabétisation, les comités de gestion des centres d'alphabétisation. Et on se retrouve là avec plusieurs catégories d'organisation de la société civile. Pour l'éducation formelle, les comités des parents des élèves que nous accompagnons. Pour l'alphabétisation, comité de gestion des centres d'alphabétisation. Pour la santé, comité de développement de santé. Pour la mutuelle de santé, section mutualiste. Pour les petits entrepreneurs, on fait un petit groupe, le groupe des entrepreneurs. Alors, chaque groupe délègue des individus, femmes ou hommes, pour siéger au niveau de chaque aire de santé et former un cadre de concertation que nous appelons comité local de développement. C'est ainsi qu'au niveau de chaque aire de santé, les organisations de la société civile, les individus ou les groupes d'individus que nous avons ciblés sont organisés en structure thématique santé, thématique éducation formelle, thématique éducation non formelle, thématique entrepreneuriat. Et ils se regroupent tous et ils forment un cadre que nous appelons comité local de développement pour leur permettre de discuter, d'avoir les informations sur tout ce que les autres font. Je donne un exemple simple. Dans un village, quelqu'un a des sacs de niébé, il veut vendre des semences. Et il me dit, écoute, où est-ce que je peux trouver les clients pour vendre ces niébé? Je vais dans le village suivant. À 3 km seulement, je trouve toute une association. Ils me disent, en tout cas, si tu sais là où on vend les semences de niébé, nous avons fait les champs, ça fait déjà 2 semaines, on ne sait pas semer parce qu'on n'a pas la semence. Moi, j'ai dit, mais il y a semence à côté. Il y a semence de niébé à côté. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Parce qu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas un cadre de concertation qui les réunit. S'ils avaient un cadre de concertation, ils seraient informés. Ah, c'est de l'agriculture. Ils allaient dire, nous avons des sacs de semences de niébé, on vend. Et l'autre association allait dire, ah ok, nous on va acheter. Mais alors, ça c'est l'importance des cadres de concertation pour partager les informations au niveau de l'aire de santé. Une aire de santé peut compter au moins, en moyenne, 10 villages. Vous voyez ce que ça fait? Un seul dé regroupe 10 villages, mais des gens qui travaillent selon des thématiques. Et chaque thématique, nous avons de types d'accompagnement aussi liés à leur thématique.
Ok. Très bien. On a bien compris les différentes structures que vous venez déjà d'expliquer ici. Mais je me pose encore la question de savoir, parce que vous parlez beaucoup de café. Apparemment, le café, c'est une filière très importante. Et la question a des volets. Hein. Premièrement, vous nous rappelez encore l'axe ou l'intervention. Congo d'Or Pen œuvre concrètement dans quelle province? C'est quoi le site? Sa zone d'intervention, donc la zone d'intervention du programme actuel. Mais aussi cette filière café qui semble avoir beaucoup d'importance au niveau du programme. Il y a quelles étapes Congo d'Or Pen est en train de poursuivre pour les appuyer?
Ben, Congo d'Or Pen était très grand à l'époque. Hein? On était dans le Kwango, dans le Kwilu, dans l'Équateur, la province de l'Équateur, dans le Nord Ubangi, dans le Sud Ubangi. Okay. Actuellement, nous sommes rien que dans le Sud Ubangi. Les projets Ensemble Agissons se passent dans le Sud Ubangi, dans la zone de santé de Boto et dans la zone de santé de Boamanda.
Okay.
Mais à part le Congo, nous sommes aussi actifs au Maroc. Congo d'Open travaille avec un autre partenaire là-bas, Karama Solidarity. Ça, c'est les deux zones d'intervention. Donc, au Congo et au Maroc. Au Congo, nous sommes vers le Sud Ubangi, la province du Sud Ubangi, dans la zone de santé de Boto et dans la zone de santé de Boamanda.
Ok. Vous venez de parler de partenaires locaux. Au Maroc, vous parlez des Karama. Alors, pour la RDC, c'est qui est partenaire, le partenaire local de Congo d'Orpen?
Au Maroc, comme j'ai dit, on travaille avec Karama Solidarity et aussi Sidou Bangui ici en RDC. Congo d'Orpen travaille avec son partenaire historique, CDI Boamanda. Mais la question sur les cafés, ça m'intéresse beaucoup.
Voilà. Miko, on revient sur les cafés.
Marcellis, ce sont des gens, les noms là ou des structures, j'ai entendu depuis très longtemps, ils nous appuient depuis tout ce temps sur les cafés. Et je suis très intéressé pour parler du café.
Allez-y.
Le premier travail que nous faisons dans les cafés, c'est cibler les producteurs de café. Ils sont très nombreux, mais nous sommes dans une zone bien circonscrite, 10 heures de santé. Nous avons ciblé 314 producteurs de café.
Okay.
Seulement pour cette fois-ci. Maintenant, avec les 314 producteurs, nous commençons l'accompagnement. L'accompagnement commence par chaque producteur établir un document de micro-projet. Nous avons conçu un petit canevas, ça peut être écrit en langue locale, comment demander un micro-projet pour que ça soit appuyé par les projets. Chaque producteur de café, nous l'appelons PL, petit entrepreneur local. Alors, la moyenne des champs que nous avons appuyés par individu, c'est au moins demi-hectare. Nous achetons des semences, des sachets polyéthylène, des machettes, les outils aratoires, arrosoirs, et nous appuyons. Comment on appuie? On regroupe les producteurs de café là-bas, et puis dans un village, on monte un germoir. Donc, nous faisons une longue plate-bande, nous achetons les graines, on les achète à Kisangani.
Ok. Et puis, mais ce sont des graines. Parce que localement, on ne trouve pas des graines?
Oui, le café local a été attaqué par une maladie, la trachéomycose.
Okay.
Maintenant, la station de Yangambi a livré des semences de café trachéorésistantes. Nous achetons à partir de là-bas, les projets achètent, et dans les villages, on monte des pépinières avec les producteurs. On commence par les germoirs. On monte les germoirs. Quand le café commence à lever, on a des feuilles, forme papillon. Quand ça dépasse un peu, nous prenons les plantilles là-bas, qui sont vigoureux, droits. Nous les mettons dans les sachets. Ça devient la pépinière.
Okay.
Nous conduisons la pépinière pendant 3, 4, 5 mois. Ça arrive à la période pour planter. Et nous, les paysans, chaque paysan fait son champ. Nous, on vient voir, on fait le piquetage. Et puis, on fait la trouaison. Nous distribuons ces plantilles de café et les cafés sont plantés.
Okay.
Et l'entretien continue. Jusqu'à 3 ans, ça commence la première production. Et 4 ans, la production commence. Alors, maintenant, avec les 314 producteurs, il y en a qui ont leur ancienne plantation qu'ils avaient abandonnée. Nous les accompagnons pour régénérer cela. Parce que le café, même s'il fait 50 ans, tu peux encore couper, régénérer, il va produire de nouvelles pousses, tu vas trier et il va encore produire comme si c'était un nouveau champ.
Okay.
Donc, nous, le travail consiste à accompagner les producteurs sur les anciennes plantations et sur les nouvelles plantations. Actuellement, dans ce programme, on a 309 hectares de café, dont 150,15 hectares sont installés nouvellement avec les pépinières qu'on a montées. Et 159 hectares, ce sont les anciennes plantations régénérées.
Okay.
Quand je fais la moyenne pour les 314 producteurs, chacun a au moins demi-hectare. Voilà un peu. Alors, l'accompagnement ne se limite pas là-bas. Ils ont produit. On a régénéré l'ancienne plantation. On a fait de nouvelles plantations. L'entretien continue jusqu'à la récolte. Nous, nous sommes rendus compte que le café de meilleure qualité, il faut que ça soit traité café baie rouge. Parce que si vous dites qu'il faut le sécher et vendre, un, le danger c'est que le producteur il sera tenté de ne pas faire la récolte sélective. Il va prendre toutes les graines, les graines non mises. Il va étaler sur le sol et le café va prendre le goût du sol. Ça, c'est un mauvais café. Nous, on n'encourage pas ça.
Okay.
Et notre manière d'accompagner dans les champs de café, c'est dans la zone forestière, on n'utilise aucun pesticide, aucun produit chimique. Donc, ce champ-là est fait. Et jusqu'à la récolte ici, nous les accompagnons, c'est la récolte sélective. Tu ne récoltes que la graine de café qui est devenue rouge cramoisie.
Okay.
Donc, rouge là, cerise rouge, c'est ça on récolte. C'est pourquoi on dit sélective. Les graines qui ne sont pas rouges, on ne récolte pas. Et ces graines-là, Actuellement, nous avons acheté une dépulpeuse motorisée locale qu'on peut installer dans les milieux paysans. Et cette dépulpeuse, le café venu de la récolte sélective sera lavé là-bas, dépulpé, lavé et étalé sous des clés pour avoir un café de qualité.
Et ce sera une dépulpeuse pour tous les 314 PL.
C'est là le problème, c'est le budget qui nous limite. Normalement, avec 314 producteurs, il faut au moins installer au moins 6 microstations de lavage de café. Ça veut dire 50 producteurs autour d'une microstation.
OK.
Bon, comme ils sont 300, si on a 6, ça peut aller. Mais même si les moyens sont trop limités, si on a 4, ça peut aller. Mais actuellement, on n'a qu'une microstation. Donc, une dépulpeuse et on va peut-être utiliser les moyens de bord, les motos. Les producteurs devront récolter là-bas. Mais quand on récolte les cafés, il faut les traiter le même jour pour avoir les cafés de qualité. Donc, si on avait les moyens, on allait installer dans les 4 endroits. Mais actuellement, comme on a une, on fait avec les une là. On installe et puis on récolte les cafés, on lave, on fait sécher. Et puis, on va encore travailler avec et sur... la commercialisation.
Très bien. Mais j'entends ici, vous avez parlé de la récolte sélective. Est-ce que vous avez des techniciens, des agronomes qui vont accompagner ces producteurs-là à la sélection des cerises de bonne qualité?
Alors, ce qui se passe est que dans l'engagement, la convention que nous avons faite avec CD Boamanda, notre partenaire, nous discutons ensemble du profil du personnel qui doit travailler dans le cadre de ces projets-là.
Exact.
On a besoin des agronomes pour conduire les producteurs. On a besoin des professionnels de santé pour conduire les domaines de santé et des mutuelles de santé. On a besoin de professionnels en alphabétisation et en environnement. Voilà ce que nous faisons. Alors nous présentons ces profils et CDI engage ces personnels d'après ces profils. Ce qui fait que nous avons des agronomes dans ces projets. Ils sont deux qui travaillent sur la filière café. Nous avons des professionnels en santé et nous avons d'autres professionnels dans les autres domaines.
Vous avez parlé des agents partenaires locaux qui travaillent déjà dans la mise en œuvre du programme. Mais comment est-ce que vous vous décrivez actuellement l'implication de ces partenaires locaux dans la mise en œuvre du programme? Comment vous décrivez l'implication des CDI, l'équipe projet, au niveau de la mise en œuvre du programme?
Voilà, il y a une étape sur les cafés que je n'ai pas dit. Je vais reprendre cette question.
Oui.
Les femmes dans les cafés.
Oui.
C'est tout un problème parce que dans les milieux où nous travaillons, les cafés relèvent du domaine foncier. Et là-bas, on ne donne pas l'héritage souvent aux femmes.
Okay.
Donc, sur les 314 producteurs de café que nous avons identifiés, dans tous les rayons, il n'y a que 17 femmes qui sont propriétaires des champs. Ce sont les champs de leurs maris décédés et comme ces femmes ont décidé de ne pas se remarier, elles sont restées avec les enfants et elles gèrent ces plantations. Elles sont membres de cette coopérative que nous avons mis en place parmi les 14. Alors, vous voyez que le nombre de femmes est un peu moins. C'est ainsi que nous mettons dans les champs, surtout dans les nouvelles plantations, des champs en association avec les autres plantes pour intéresser les femmes et les enfants de fréquenter ces champs-là aussi.
Okay.
Donc, on fait une sorte d'agroforesterie. Le café est souvent installé actuellement sous des arbres de la forêt, mais on fait un éclaircissage pour que l'ombrage ne soit pas très dense. Mais aussi en association avec les arbres fruitiers, avec l'ananas, ainsi de suite. Donc, les champs de café, qui étaient avant tout un champ des hommes, deviennent les champs de tout le monde, des femmes et des enfants.
Okay.
Voilà. Mais le partenaire local, CDI Boamanda, lui, pourquoi on l'a même choisi? Parce qu'il a la même vision de développement que nous. Donc, nous partageons avec CDI Boamanda la même vision de développement, amélioration des conditions de vie des paysans.
Okay.
Mais la manière de l'améliorer, c'est qu'il faut travailler sur les revenus, travailler sur les besoins sociaux de base en santé et en éducation. Et il faut le faire toujours d'une façon inclusive et durable. Le partenaire est engagé dans ce travail-là.
Ok, très bien. je reviens sur la question de Jean, parce que vous avez insisté, vous êtes revenu spécialement pour parler de Jean au niveau de la filière café. Mais est-ce que l'environnement aussi est pris en compte dans la mise en œuvre du programme?
Oui, comme je l'ai dit, les champs de café sont mis en association avec les arbres fruitiers et les arbres de la forêt, les essences forestières. Et nous montons même des pépinières d'arbres, des essences forestières à croissance rapide. Et nous les plantons et nous mettons en association avec les bananiers et les autres.
C'est-à-dire pour que le nom technicien, donnez-nous un exemple, parce qu'à croissance rapide, ça veut dire c'est quelle espèce
d'arbre. Donc, un arbre de la forêt qui, quand vous le plantez, le degré de croissance est rapide. En, en un an, déjà, tu le vois, il occupe un espace. Il y a un arbre qu'on appelle ricinodendron. Lui, quand vous le plantez, souvent on utilise pour les clôtures aussi, quand vous plantez, en une année, il devient un grand arbre. Et c'est un arbre haute de chenilles. On fait au même moment, nous mettons cet arbre, et au mois de juin, juillet, les chenilles viennent dessus automatiquement, et les paysans peuvent ramasser des chenilles qui sont un paquet de protéines, comme ils disent que Dieu leur a envoyé. Vous voyez, donc, côté environnement, c'est l'association avec les bananiers des arbres de la forêt, ou plantation de caféiers sous les arbres de la forêt, ou association de caféiers avec des bananiers, avec de l'ananas. C'est l'agroforesterie, en fait. C'est ça que nous faisons. Et le côté genre, c'est plus l'alphabétisation. On a plus de 800 femmes qui sont alphabétisées, dont 160 et quelques, près de 170, ont reçu leur certificat de fin d'apprentissage. Et chez CDI, les responsabilités aussi sont réparties d'une façon thématique. Donc, il n'y a pas un rayon qui appartient à un seul animateur. Il y a un professionnel de l'environnement qui passe dans tous les rayons. Il y a celui de santé qui passe dans tous les rayons. Et les producteurs, ils sont dans tous les rayons. Donc, les gens, et puis nous, Congo d'Open, nous avons ce rôle d'accompagner ces animateurs pour qu'ils travaillent très bien. Pour tous ces programmes, jusqu'à la fin, Congo d'Open va produire au total 65 guides méthodologiques, ce que nous appelons outils didactiques. Par exemple, pour le café, il y a une fiche technique qui montre l'itinéraire technique, comment planter le café depuis le début jusqu'à la fin. Ce que j'ai tenté d'expliquer ici, ça se trouve dans un outil qui s'appelle production de café de qualité. Là-bas, il y a les étapes, comment il faut faire. Et puis n'importe qui, même si vous n'êtes pas agronome, vous pouvez prendre ça et faire un champ de café. Et dans toutes les thématiques que nous faisons, nous produisons un outil didactique, ce qui permet aux animateurs de suivre ces guides méthodologiques pour réaliser les activités avec les paysans.
Ok, ça c'est intéressant, parce qu'avec ces outils, un autre programme ou un autre bailleur peut s'appuyer là-dessus pour les dupliquer dans le but d'avoir ce programme dans une autre province. Est-ce que pour tout ce qui... tout ce que vous avez fait là comme appui, apporté comme appui au niveau de Congo d'Open, quelles sont les autres mesures? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Puisque vous avez cité la dépilpeuse, il y en a combien? Vous en avez doté une, mais il fallait en avoir 4 ou 6 pour que l'appui soit suffisant. Mais quelles autres mesures pour améliorer les conditions de vie des paysans?
Nous avons compris que vous pouvez avoir beaucoup d'argent et avoir peu de résultats. Vous pouvez aussi avoir peu d'argent et avoir beaucoup de résultats. Tout dépend de l'approche que vous utilisez. Vous voyez que notre budget n'est pas si grand. Mais l'approche d'appuyer les petits producteurs, c'est l'approche avec les petits moyens. Chacun a son champ de caféiers, par exemple. Mais maintenant, ce qui pose problème, c'est comment traiter ces cafés-là. Pour les traiter, comme je l'ai dit, on devrait avoir au moins 4 ou 6. Bon, on en a seulement une. Donc, on est en train de se battre pour trouver d'autres moyens pour installer d'autres micro-stations. Ça, c'est côté entrepreneuriat. Pourquoi je parle seulement de café? Parce qu'il y a une étude qu'on a menée dans la région. Les paysans, ils font beaucoup de cultures. Ils font le maïs, ils font l'arachide, le manioc, ceci. Mais on a étudié quels sont les produits qui ont une valeur ajoutée, qui apportent beaucoup d'argent, comme on appelle filière rentable, filière porteuse, filière sur laquelle, si on s'appuie, ça peut déclencher le développement de la communauté. Tout le monde fait le maïs, mais le maïs là-bas est fait d'une manière pour assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est l'aliment de base de la communauté. Ça n'apporte pas beaucoup d'argent. Nous encourageons cela, mais le marché, la plus-value de manioc et de maïs, c'est peu. C'est l'arachide et le café. Ce sont les deux filières-là qui apportent beaucoup. L'arachide se fait deux fois par an, mais le café se récolte une seule fois par an. Alors, sur base de cette étude qui a révélé que le café est une filière rentable et que l'arachide aussi est une filière rentable, dans l'arachide, les paysans maîtrisent toutes les étapes, depuis la semence jusqu'à la production. Ce que les paysans n'ont pas, c'est seulement la machine pour faire l'huile d'arachide. Ça, il n'a pas. Bon, et puis quand il produit, il décortique son arachide, il y a les acheteurs qui viennent, ça se vend mieux. Nous, on a dit, mais si on se lance pour accompagner le producteur sur l'arachide, le seul volet sera amener des machines, mais nous aussi, on n'a pas, ces machines-là. Nous, on s'est dit, mais alors, là où il y a beaucoup de problèmes, les cafés apportent beaucoup d'argent, mais les paysans, il y a beaucoup d'étapes qui les échappent. La semence, d'ailleurs, qui est de base, c'est pas facile qu'un paysan quitte là-bas et vienne chercher à Kisangani. Voilà, nous, on a travaillé sur cette... On a jugé travailler seulement sur le café, cette fois-ci. Mais si on a les moyens, on peut étendre sur l'arachide.
On comprend par toutes ces interventions qu'il y a, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de Congo d'Orpen. Vous appuyez des pulpeuses, tout l'accompagnement des producteurs, la santé, avec la mutuelle, les centres d'alphabétisation et autres. Ça demande beaucoup de moyens et... Je veux bien savoir qui finance Congo d'Orpen, qui sont les bailleurs.
Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais avoir moins de résultats. Vous pouvez aussi, par contre, avoir peu de moyens, mais beaucoup de résultats. Ou vous avez beaucoup de moyens, beaucoup de résultats. Ça peut arriver. Je veux dire que c'est l'approche, la manière de faire les choses qui compte.
Très bien.
Ici, notre bailleur, nous sommes une ONG belge, notre bailleur traditionnel, c'est la DGD, qui nous donne toujours ses
DGD
programmes.
DGD, qui veut dire
Direction des voies, c'est la coopération développement.
Ok.
Il appuie les ONG belges ici en RDC et nous nous faisons membres.
Ok.
C'est notre bailleur traditionnel. En dehors de ces bailleurs, nous avons des individus et des structures, des fondations qui nous appuient. Comme j'ai cité Marcellus, j'ai parlé de Miko, c'est Santé qui nous appuie dans les cafés depuis très longtemps. Tout ça, nous faisons sur les cafés et même sur la mutuelle de santé. Mais nous avons aussi un public belge qui nous appuie. Des petits donateurs, ils sont plus de 500, qui sont très intéressés de ce que nous faisons sur le terrain. Oui, parce que chaque fois, chaque trimestre, nous produisons des bulletins trimestriels de publication, où nous parlons de ce que je viens d'expliquer ici, des thématiques et autres, et ils contribuent, ils veulent voir comment ça peut appuyer les paysans dans les villages. Et nous nous organisons de cette façon-là. Donc, on a principalement la DGD, nous avons Miko, nous avons Marcellus, nous avons ces donateurs qui nous appuient. Et avec ces peu de moyens, nous essayons de les concentrer sur les activités au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, d'une façon inclusive et durable.
Ok, très bien. Bon, merci beaucoup pour cet échange. On va chuter et clôturer par ici. Juste un petit mot. Ça va aller droit au niveau de... Bon, ça va dans, je vais dire, dans deux sens. Au niveau de la communauté, un conseil ou un mot par rapport à l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'un paysan doit vraiment s'engager au niveau de l'entrepreneuriat pour évoluer? Mais aussi, un mot pour, je ne sais pas, vos bailleurs et puis tout ce monde que vous avez venu de citer qui appuie Congo d'Orpen pour les encourager.
Alors, je dis toujours aux paysans, la plupart sont des chrétiens, je leur dis au commencement, Dieu créa. Le premier verbe que Dieu a conjugué, si la terre, c'est le verbe créer, c'est le verbe de l'entrepreneuriat. Pas au commencement, Dieu dansant, Dieu parlant, Dieu priant.
Dieu avait créé.
Créé.
Et il continue de crier.
Alors, pour vivre, c'est entreprendre ou rien. Donc ici, la valeur est à ces producteurs qui produisent les cafés de qualité et qui produisent de l'arachide, qui font tout pour vivre. Mm-hmm. Alors, notre rôle est de les accompagner, de les structurer de façon qu'ils ne puissent pas aller devant les acheter à l'ordre dispersé.
Okay.
Parce que s'ils vont à l'ordre dispersé, ça va profiter à l'acheteur, mais pas à eux, les producteurs, qui sont les propriétaires des produits.
Mm-hmm.
Donc, l'option serait de les mettre toujours ensemble, de les accompagner. Et par rapport à notre partenariat, nous nous encourageons beaucoup CDI parce qu'on a la même vision. Mais il y a de l'expertise chez nous, Congo Open, et chez CDI. Là où nous trouvons que ça manque ou bien que nous voulons approfondir, nous établissons des collaborations avec les autres ONG. C'est ainsi que nous demandons pour la dépulpeuse. Nous sommes allés chez Ricolto et nous disons comment vous faites pour faire ça. Ils nous disent voilà la machine qu'on utilise. Voilà, on développe des collaborations, échanges et partages d'expériences pour que ça profite à l'équipe de CDI qui va mettre en place le projet.
Okay.
Et pour nos donateurs, je ne peux que remercier parce qu'ils ne se rendent pas compte de petits moyens qu'ils donnent et de grands résultats qu'on a sur le terrain.
Okay.
Voilà, donc 314 producteurs de café appuyés en étrant en semences ont installé 309 hectares de café. Et la production, si on vend seulement même 20 ou 30% de cette production, ça sera au moins 20 tonnes ou 30 tonnes de café lavé.
Okay.
Vous voyez, c'est beaucoup. En mutuelle de santé, étonnant. Les appuis qu'on a, les intrants spécifiques, les accompagnements, les formations qu'on donne, vous savez combien ça a donné? On a 23 000 affiliés à la mutuelle de santé à Boto et 90 000 d'affiliés à la mutuelle à Bouamana. Donc, on a plus de 100 000 affiliés à la mutuelle. Et c'est 100 000 multipliés par la taille des ménages. Parce que l'affiliation, s'ils sont 100 000 par exemple, vous voyez, c'est 100 000 personnes sauvées en matière de santé parce que devant un problème de santé, ils ne vont payer qu'un petit ticket modérateur et l'argent qu'ils ont mis ensemble va couvrir tous ces soins-là.
Okay.
Et vous vous rendez compte, il y a leur appui, l'appui de bailleurs, de donateurs, c'est énorme. J'ai dit un petit appui, mais regardez comment ça donne.
Le résultat, beaucoup.
Centre de santé construit et équipé, la mutuelle de santé fonctionnelle, les 10 centres d'alphabétisation fonctionnent, les 314 producteurs de café accompagnés, et voilà. Avec les petits moyens qu'on a, on ne peut que les remercier. Le besoin est illimité. Ben, pour le producteur de café, si on avait 4, ça allait être mieux. Pour la mutuelle, il faut continuer sur le chemin. Pour l'alphabétisation, il faut étendre. Et il faut travailler suffisamment sur les jeunes qui n'aiment pas beaucoup l'agriculture ces derniers temps.
Promouvoir l'agriculture.
Il faut promouvoir l'agriculture des jeunes parce qu'on est dans la décennie des Nations Unies qui promet l'agriculture familiale. Papa, maman et les enfants dans les champs. Bon, actuellement, les jeunes aiment les réseaux sociaux, tout ça. Ceux qui sont membres de groupes que nous accompagnons, bon, ils s'intéressent de l'agriculture et ça, c'est notre travail. Nous devons continuer à mobiliser les jeunes et les femmes dans ce grand ensemble de développement.
Merci beaucoup, M. Aloïs. Et à la prochaine.
Merci.